Il est 18h à Kinshasa, 19h à Bukavu, au Sud Kivu. Bienvenue à l'écoute de ce journal.
Radio Kapi.
Au sommaire, naufrage de la pirogue motorisée satellite Kaboulou 1er dans le lac Kivu, entre Idjou et Calais au Sud Kivu. Les bilans provisoires revus à la hausse, au moins 2 morts, 20 disparus et 23 rescapés. Dans ce journal aussi, l'amélioration des conditions de détention dans les prisons de l'Ituri. Sujet au centre d'une rencontre hier mercredi à Bunia entre le ministère de la Justice, la Monisco et le gouverneur de cette province. L'invité de ce journal est la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Marie Nyang Ndambo parle de la première édition de la conférence ouverte hier à Kindu sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau. Merci d'être avec nous. Dieudonné Nyangassa et Pierre Diassinois assurent la technique devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au moins 2 morts, 20 disparus et 23 rescapés. C'est les bilans encore provisoires du naufrage d'une pirogue motorisée survenue mardi dernier sur le lac Kivu, entre Idjoui et Calais au sud Kivu. L'embarcation, une pirogue motorisée connue sous le nom de satellite Kaboulou 1er, provenait du marché de Sakiro dans la chefferie des Rubenga à destination des Makengere dans les territoires de Calais. Les détails avec Bernard Denyangui.
Selon les sources de la société civile de Calais, la cause principale du naufrage serait le surchargement de la pirogue, combiné aux fortes vagues observées sur le lac Kivu dans l'après-midi du mardi 7 avril. La pirogue transportait plusieurs dizaines de passagers ainsi que des produits de première nécessité. À ce stade, seuls les corps d'un enfant et d'une femme ont été repêchés puis inhumés. Au moins 20 personnes, parmi lesquelles plusieurs femmes, quelques hommes et des enfants, demeurent introuvables. Des sources indiquent que ce bilan reste provisoire, l'embarcation ne disposant d'aucun manifeste permettant de connaître avec exactitude le nombre de passagers à bord. Les autorités administratives du village Kaboulou 1, dans le groupement Mbinga Nord, précisent que les disparus seraient majoritairement originaires des villages Mokengere, Mweha, Bukanyi, Nyabishonga et Rosazi. Parmi les survivants, au moins 10 ont été pris en charge dans les structures médicales. La société civile appelle à l'intervention urgente du gouvernement congolais et de ses partenaires humanitaires pour renforcer les recherches, mais aussi pour mettre en place des mécanismes de prévention face à la répétition de tels drames dans cette partie du lac Kivu.
Et puis, hausse du prix des transports en commun depuis hier mercredi dans la ville de Kalemi, en province du Tanganyika. À la base, le déclenchement par la Direction générale des recettes du Tanganyika de l'opération de recouvrement forcé des taxes de contrôle technique et de l'autorisation des transports. Et cela en plus de la hausse du prix du litre d'essence à la pompe. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Tanganyika, promet de donner des éclaircissements au sujet de cette rareté du carburant. Le point avec Paul Mounanga.
Une course de 1000 francs congolais, par exemple, est passée à 2500 francs congolais, voire plus. Pour les conducteurs des voitures, tricycles ainsi que des motos, le prix du litre de l'essence est passé de 3200 francs congolais ou 3500 francs à 6000 voire 7000 francs congolais. En plus, il y a l'opération de recouvrement forcé des contrôles techniques et de l'autorisation des transports déclenchée par la Direction générale des recettes du Tanganyika qui explique la hausse du prix des transports en commun. On écoute tour à tour un transporteur et un client. Lorsqu'un assujetti qui est motocycliste ou un responsable d'une moto achète ses documents, mais il ne constate qu'il n'y a aucun impact. Après des années, ces mêmes taxes reviennent encore. Du côté de ceux qui perçoivent la taxe, il n'y a pas le devoir de redevabilité. Je viens de Moukoukou jusqu'à Kisebwe. J'ai payé 3000 francs congolais. Et pourtant, auparavant, on payait 1500 francs congolais ou 2000 francs congolais si vous êtes à deux sur une moto. Je manque même l'argent des transports pour les retours et je suis obligé de marcher à pied. Dans un communiqué ce mercredi, le maire de Kalemi appelle les transporteurs en commun à appliquer les prix de 1000 francs congolais ou 1500 francs congolais par trajet. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
À Kisangani, les prix du carburant ne cessent de grimper à la pompe, plongeant la ville dans une incertitude économique inquiétante. De 3 700 francs congolais à 5 500 francs congolais, en moins de quelques semaines, la hausse est tout simplement brutale. Sur le terrain, c'est le bras de fer entre taximens et clients. pendant que le silence du gouvernement provincial alimente toutes les spéculations. Quel est l'état réel de la situation et comment justifier cette envolée? Le point avec Jacques Moukonkolé.
C'est un décor de plus en plus morose qui s'installe aux abords des stations-service de Kisangani. Hier encore à 4500 francs, le litre d'essence revient actuellement à 5500 francs congolais à la pompe. Une instabilité qui rend les quotidiens des Boyomé asphyxiants. Conséquence immédiate, les tarifs des courses à moto ont doublé, voire triplé, créant des tensions permanentes.
Une distance qui demandait au moins 1000 francs auparavant, désormais on peut payer 2000 francs. Et la distance qui était de 2000, 3000 francs, elle est devenue à 4000, 5000 francs. Donc ça pénalise vraiment les habitants de la ville.
Les conducteurs des mototaxis déclarent que ce n'est pas leur faute, car ils achètent l'essence très cher. S'ils ne changent pas de prix, il y a risque de travailler à perte. Pendant que la grogne monte, aucune explication officielle de la part du gouvernement provincial pour rassurer la population. Il faut se tourner vers la FEC, la Fédération des entreprises du Congo, pour obtenir un début d'explication. Selon son président Tip Tambwe, cette situation est la conséquence directe des tensions géopolitiques mondiales, notamment la guerre en Iran qui impacte le prix du baril au Kenya, principal point d'approvisionnement de la région.
Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Perturbation des activités ce jeudi à la direction générale de la Société nationale d'électricité à Kinshasa. En colère, les agents et cadres ont pris d'assaut l'enceinte de cette entreprise publique afin de protester contre son démembrement. Selon le président syndical de cette entreprise, la forme portée par les conseils d'administration vise à scinder la SNEL en trois parties, notamment la production, les transports et la distribution. On écoute à ce sujet Samuel Kaya Kinzonzi au micro de John Tiboaboa.
Le PCI est venu ici avec sa politique de réforme. Il veut réformer la SNEL et sans associer les travailleurs. Mais c'est fait malheureusement avec les experts de la Banque mondiale. Et ils ont fait une étude et les études qu'ils ont fait, malheureusement, ils n'ont pas associé le partenaire social et ils veulent appliquer ces études. Pour eux, ils veulent envoyer ça auprès du gouvernement pour démembrer la SNEL en trois entreprises. La production, les transports et la distribution. Y compris, ils veulent créer une autre entreprise sur les immobilisations. C'est ça qui crée la tension au niveau de la SNEL. Nous sollicitons au président de la République de comprendre cette crise de détresse des agents SNEL et écouter, de relever tout ce monde-là. Je vois qu'ils ont des problèmes, ils veulent chercher des problèmes à la SNEL.
Notez que tous nos efforts pour contacter les autorités de la Société nationale de l'électricité n'ont pas abouti. Comment renforcer la réflexion sur la réhabilitation et la construction des infrastructures pénitentiaires pour un bon hébergement des prisonniers et détenus? Cette question était au centre d'une rencontre hier mercredi à Bunia entre une délégation mixte des ministères de la Justice, MONUSCO et le gouverneur militaire de l'Ituri. Objectif, s'imprégner des problèmes de détention dans la prison urbaine de Bunia. Des détails avec Martial Kizabiamungu.
Les discussions entre le secrétaire général à la justice et les gouverneurs des provinces de l'Ituri ont porté sur trois axes principaux, la réhabilitation et la construction des infrastructures pénitentiaires, l'approvisionnement des prisons à vivre et non vivre et le suivi des conditions de détention dans les respects des droits humains. Selon Boto Blolimba King, secrétaire général à la justice, cette démarche vise à évaluer les fonctionnements de l'administration pénitentiaire dans les contextes de l'état de siège. L'objectif étant d'obtenir un engagement renforcé des autorités pour améliorer les conditions de vie du détenu.
On va se rendre à la prison centrale de Bunia pour faire les constats. La question de l'approvisionnement des prisons en vivre et non vivre. Et enfin, la question des droits de l'homme, beaucoup plus dans les secteurs des prisons.
De son côté, le gouverneur de l'Ituri estime que cette rencontre constitue une opportunité pour réaffirmer l'engagement de son administration en faveur du respect des droits humains dans les établissements pénitentiaires. Il insiste également sur la nécessité de restaurer l'autorité de l'État dans les entités où sont installées ces maisons pénitentiaires. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, plus de 280 détenus souffrent de malnutrition, 75 autres de tuberculose et plus de 70 derniers à la prison centrale de Bunia. En cause, l'irrégularité des subventions alimentaires du gouvernement aggravée par la surpopulation carcérale. Ce tableau préoccupant des conditions de détention a été présenté hier mercredi au secrétaire général au ministère de la Justice en visite dans cet établissement pénitentiaire. Des détails avec Isaac Raymond.
À la prison centrale de Bounia, les conditions de détention sont particulièrement précaires. Le manque de subventions alimentaires oblige la direction à s'approvisionner à crédit pour nourrir plus de 2100 détenus. Selon ses responsables, chaque détenu ne reçoit qu'une ration très insuffisante par jour. Conséquence, la malnutrition touche déjà plus de 280 détenus. Par ailleurs, 75 cas de tuberculose ont été enregistrés. Les malades sont isolés afin de limiter la propagation de la maladie. Plus de 70 autres détenus souffrent des hernies nécessitant des interventions chirurgicales. Malgré ces conditions difficiles, le directeur de la prison affirme qu'aucun décès n'a été enregistré depuis le début de l'année grâce notamment à l'appui des partenaires comme la MONUSCO et le Comité international de la Croix-Rouge. Cependant, il appelle les autorités à agir en urgence pour améliorer les conditions de vie des détenus. Camille Zonzi.
J'ai aimé les visites chez nous ici à Bounia à la prison pour palper du doigt la réalité, comment nous fonctionnons, parce que nous sommes les ambassadeurs en province. J'ai fait à passer aussi le problème alimentaire. Je leur ai expliqué comment j'ai à maintenir le cap par rapport à cette situation.
En réaction, le secrétaire général au ministère de la Justice a promis de porter ses préoccupations auprès des autorités compétentes. Bounia, Isaac Remoyop et Radio Capi.
Sous un autre chapitre, au moins 4 personnes ont été tuées, une dizaine d'autres grièvement blessées et plusieurs maisons incendiées. Tel est le bilan provisoire d'un conflit qui oppose depuis mardi dernier les habitants du village de Benakasenga dans le groupement de Kajangai à ceux de Bakwanga dans le groupement de Kalunga en territoire de Dibaya au Kasaï central. Selon nos sources sur place, ces affrontements sont liés à un litige foncier qui remonte à plusieurs décennies. La société civile locale déplore l'absence d'intervention des forces de l'ordre et appelle les autorités politiques, militaires et policières à s'impliquer rapidement afin d'éviter une aggravation de la situation. Les détails dans ce reportage signé André Katende Ngalamouloumé.
Les affrontements ont éclaté mardi lorsque des habitants de Benakasenga ont traversé la rivière Moyo pour cultiver des champs situés à Bakwanga, rapportent plusieurs sources concordantes. D'après la structure Debout Congolais pour le développement durable DCDD, le bilan provisoire fait état de plusieurs maisons incendiées, des blessés graves et des morts. Parmi les victimes figure un homme de Benakasenga, âgé d'une cinquantaine d'années, tué mercredi. Certains blessés ont été transférés à l'hôpital Saint-François de Koé pour y recevoir des soins. Martin Mutelawa Kasonga, coordonnateur territorial de la DCDD, appelle les autorités à intervenir en urgence afin de rétablir la paix entre les deux communautés.
Nous demandons l'implication des autorités, tant territoriales que provinciales, d'intervenir dans ces dossiers. S'il n'y a pas l'implication des autorités, il y aura toujours des dégâts et l'écoulement du sang dans les territoires de Dibaya.
Contacté à ce sujet, l'administrateur du territoire de Dibaya indique qu'un conseil de sécurité est en cours et a promis de se prononcer incessamment sur cette situation. Kananga, André Katendengalamouloumé, Radio Kapi.
Et tout à fait autre chose à présent. À Kinshasa, la pose d'ongles artificiels s'impose désormais comme une véritable tendance. Vernis permanent, gel, manucure sophistiquée, les femmes de tous horizons s'y adonnent pour rester à la mode et soigner leur apparence. Mais il y a des inquiétudes derrière cet engouement et l'usage prolongé de ces techniques. Les dermatologues alertent sur les risques que cette pratique peut engendrer tant pour la santé des ongles naturels que pour la peau. Reportage signé Sephora Mpaka.
Le métier de vernisseur connaît une véritable expansion dans la ville de Kinshasa. Dans plusieurs communes et quartiers, la pose d'ongles artificiels vernis permanent ou gel est devenue une tendance incontournable. Malgré un coût élevé, entre 10 et 35 dollars, contre 1500 et 3000 francs congolais, pour une manucure simple, les clientes ne s'en plaignent pas. Chacune s'adapte à ses moyens. Une vernisseuse rencontrée à Lingwala témoigne.
Je pose du vernis simple et du permanent. Avec le permanent, ça demande du temps car les clients exigent les styles propres qui durent longtemps.
Inhabituée de cette pratique, se confie sur le temps qu'elle gagne grâce à cette manucure.
Moi, je préfère ça parce que ça prend un ou à deux mois avant que ça soit abîmé de nouveau.
Cependant, cette mode n'est pas sans conséquences. La dermatologue Grace Abedi met en garde contre les risques liés à l'utilisation prolongée de vernis permanent et du gel qui peuvent fragiliser les ongles et irriter la peau.
La transmission des microbes, si les matériaux ne sont pas très bien entretenus et l'exposition répétée de lumière ultraviolette expose au vieillissement de la peau et au risque de développer un cancer.
Ainsi, entre esthétique et bien-être, les femmes de Kinshasa jonglent désormais entre les avantages et les risques d'une tendance devenue presque incontournable au quotidien.
Actualité internationale.
Les bilans de l'attaque perpétrée mardi dernier par des hommes armés dans le nord-ouest du Nigeria s'élèvent désormais à 50 morts. Selon des sources humanitaires, un premier bilan faisait état de 20 morts. Mais un rapport humanitaire consulté par l'agence France Presse ce jeudi dit que 50 corps ont été retrouvés. L'attaque a eu lieu mardi dans le village d'Erina, dans la circonscription de Chiroro, dans l'état de Niger.
L'invité.
L'invité de ce journal est la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat. Marie Nyange Ndambo parle de la première édition de la conférence ouverte hier à Kindu sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau. Selon elle, la province du Maniema représente une opportunité majeure pour les projets couloir vers Kivu-Kinshasa. Marie Nyange Ndambo s'entretient à Kindu avec Florence Kizalunga.
Madame Marie Nyange, bonjour.
Bonjour madame.
En ouvrant la conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau dans la province du Maniema, vous venez de parler de ces projets sur les couloirs verts. Que peut-on tout d'abord en bref attendre de ces projets?
Les couloirs verts, c'est une initiative privée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a voulu créer une aire protégée communautaire qui devrait relier l'est à l'ouest de la République et qui a une super superficie presque de 540 000 km carrés, presque la dimension de la France. Et cette aire protégée a pour objectif de développer l'économie verte et surtout d'améliorer les conditions de vie des populations et des peuples autochtones.
Alors, quelle opportunité qui présente ces projets couloirs verts dans cette province d'Imanima?
Une grande opportunité parce que ça va interconnecter les provinces par lesquelles passent ces couloir et les Maniema, en tant que grande province forestière, devra tirer tous les biens de ce macro-programme du président de la République.
Bien qu'étant un projet ambitieux, mais on sent qu'il présente des défis.
Le premier défi, c'est la préservation de la biodiversité. C'est travailler, développer l'économie de sorte que ça ne touche pas à la biodiversité. Et pour ce faire, il y a trois zones principalement, il y a les tiers de cet espace qui est occupé par des forêts intactes, c'est-à-dire des forêts où l'homme n'est jamais entré, et puis l'autre tiers est occupé par des forêts vierges où l'homme est entré juste pour aller chercher des produits forestiers non lignés, et puis l'autre tiers qui est occupé par la petite agriculture familiale, et ça va être là l'occasion aussi pour réhabiliter les zones dégradées par l'agriculture itinérante sur Brilly.
Alors, Madame la Ministre, quelle position qu'occupe la province d'Imanima dans ces projets?
C'est une position stratégique parce que d'abord, l'Imanima est une grande zone forestière. Je peux même dire que l'Imanima est encore vierge, en ce sens que l'Imanima n'a pas connu de grandes exploitations minières comme d'autres provinces minières, parce qu'il faut dire en passant que l'Imanima, c'est une zone minière aussi. Mais elle n'a pas connu de grandes exploitations, même si à certains endroits, l'environnement est dégradé dans les zones de l'assaquiment. Mais nous sommes en train de travailler pour réhabiliter ou restaurer ces espaces-là. Et les maniements, à travers ces programmes, vont avoir là la possibilité de se connecter à d'autres provinces et de faire en sorte que son économie et son social s'améliorent. D'ailleurs, c'est la vision principale du président de la République et du gouvernement de Madame Judith Suminwa, qui tient à améliorer les conditions de vie des populations et des peuples autochtones. Mais les conditions de vie des populations ne peuvent s'améliorer qu'à travers une économie forte, une économie qui marche. Et ici, à travers ces programmes, on va créer des emplois verts, on va donner de l'emploi et des revenus aux populations.
Madame Nyange, que dites-vous par rapport à cette demande de la province? Vous l'avez bien suivi lors de son discours, le gouverneur a voulu à ce que vous apportiez un soutien pour que la province du Maniema puisse rayonner et que les crédits carbone deviennent une réalité. Comment comptez-vous vous comporter par rapport à cette demande de l'autorité provinciale?
Comme j'ai dit à son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Maniement, il faut préparer des projets, il faut qu'il y ait une équipe qui travaille sur la formulation des programmes et des projets. Et c'est seulement à ces prix-là qu'on pourra aller capter le financement à l'international, parce que dans le domaine du climat, il y a quand même pas mal de financement. Mais pour ce faire, il faut avoir des outils en main pour le faire. Et j'ai entendu le gouverneur expliquer son programme très innovant. Je pense qu'avec ce programme, le gouverneur sera en mesure d'aller capter le financement pour améliorer les conditions de vie des populations du Maniema.
Madame Marie Nyango, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de ce journal, la ministre de l'Environnement, Développement durable et Nouvelle économie du climat, Marie Nyange Ndambo, s'entretenait à Kindu avec Florence Kizalunga. Fin de ce journal qui a été préparé par Lévin Mwinga et Élisée Tikota. Diedone Nyangasa et Pierre Diassinoa ont assuré la technique. Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi.